chapitre 1. Hein? Genèse chapitre 1, verset 1. Hein? Donc, si vous avez votre Bible, je vous encourage à y aller, à tourner là. Sinon, on va voir le verset à l'écran. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Que la lumière soit ». Donc aujourd'hui, et probablement dimanche prochain également, nous allons nous entretenir sur ce thème. Que la lumière soit. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons dans une époque, dans une période, dans une saison qui, si on veut employer des termes plus spirituels, si on veut, on peut dire que c'est une saison un peu plus ténébreuse. Si on regarde, on n'a pas besoin de tourner la télé, de chercher trop longtemps à la télévision. Lorsqu'on regarde les nouvelles ou quoi que ce soit dans le journal, on dirait que tout ce qui vient à notre connaissance est quelque chose de, soit des drames, des tragédies, quelque chose de mal. On sent, on dirait, ce mal, ces ténèbres, s'apesantir et prendre de plus en plus de place dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous avez remarqué ça comme moi? Et ce qu'on vient de lire ici, c'est quoi? C'est que au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et que Dieu a appelé la lumière. Et aujourd'hui, je crois qu'encore une fois, à la saison, dans l'époque, dans les temps dans lesquels nous sommes, encore une fois, j'ose croire que Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Parce que si on examine la lumière, c'est comme le froid. Amen. Parce que le froid, en théorie, ça n'existe pas. Okay? Le froid, c'est quoi? Le froid, en réalité, c'est l'absence de chaleur. On ne calcule pas le froid. Même si on dit fait moins 10, c'est un indice de chaleur. On calcule la chaleur. Et le froid, c'est une expression qu'on a trouvée pour déterminer l'absence de chaleur. Et pareillement, l'obscurité, la noirceur, les ténèbres, en réalité, la noirceur, ça n'existe pas. C'est l'absence de lumière. OK? Donc, lorsqu'on regarde les choses de cette perspective, je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme on va voir plus tard, en tant qu'enfants de quoi? De lumière. Ça redonne une nouvelle perspective à ce à quoi nous sommes appelés à faire ici sur terre. Amen. Et lorsque Dieu a appelé la lumière fut, et on voit même dans la parole en Jean, hein, si vous voulez tourner en Jean chapitre 1, que Dieu a envoyé la lumière sur terre. Que la lumière a été créatrice de toutes choses. Jean 1, verset 9. Qui nous dit cette lumière en parlant de Jésus. Amen. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu sur terre comme la lumière du monde. Amen. Il est venu comme la lumière du monde, il est venu éclairer, il est venu répondre à cet appel, en fait, du Père, le même appel auquel il a répondu en Genèse au chapitre 1, que la lumière soit et la lumière fut. Et en réalité, cette lumière-là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on le voit dans l'Apocalypse qu'à la fin, qu'est-ce qui va arriver? On n'aura plus besoin de lumière. C'est Christ lui-même qui va éclairer. Et c'est ce qui est arrivé ici en Genèse également. La lumière qui donne la vie, la lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et cette lumière, lorsqu'elle vient dans le monde, hein, a une certaine incidence, apporte certaines choses. Et une des choses que la lumière apporte dans le monde, c'est quoi? C'est que la lumière révèle les œuvres cachées. Révèle les œuvres de chacun, révèle les œuvres cachées. Vous savez, c'est comme dans une maison où tu entends les enfants courir, les enfants crier, les enfants chicaner, et que là, tout d'un coup, tu n'entends plus rien. Et non seulement tu n'entends plus crier ou courir ou quoi que ce soit, mais tu n'entends plus aucun son. À ce moment-là, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. N'est-ce pas? C'est d'un côté, tu es content parce qu'il n'y a plus de bruit, mais l'absence de bruit, c'est inquiétant. Tu les appelles, oh, pas de réponse. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? Tu cherches, tu te promènes et tu les trouves toujours. Hein? Dans ces moments-là, ils sont jamais en plein milieu du salon, là. OK? Dans ces moments-là, ils sont jamais au milieu de leur chambre en train de jouer, ils sont jamais dans le sous-sol en plein milieu, ils sont toujours cachés quelque part dans un coin. OK? Pourquoi? Parce que, eh oui, c'est pour faire des choses que probablement sont très conscients que papa et maman ne sont pas d'accord avec. OK? Et c'est ce que la parole nous dit d'ailleurs. Jean 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Où est-ce qu'on parle de la lumière? Où est-ce qu'on parle du fait que la lumière est venue et du fait que ceux qui l'ont reçue, on donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais certains n'ont pas reçu cette lumière-là. Jean 3, 17 nous dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, verset 19, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. C'est pour ça que des fois, pour ne pas dire souvent, pour ne pas dire tout le temps, vous savez, on vit hein, dans le monde, on croise des gens, on a des relations, des interactions avec les autres. Et lorsque ce soit dans nos familles ou que ce soit dans nos milieux de travail, lorsque l'on croise des gens qui n'ont pas cette foi-là que nous avons, est-ce que vous avez déjà remarqué que la lumière, des fois, qui est en nous, sans qu'on ait besoin de paroles, révèle les secrets de leur cœur? Est-ce que vous avez déjà remarqué que des fois les gens étaient mal à l'aise avec vous, les gens des fois se trouvaient des excuses sans que vous ayez dit un mot? Hein? Si tu rentres dans une pièce et finalement, oui, mais c'est parce que, mais j'ai rien dit. Okay. Même principe que lorsque tu ouvres la chambre des enfants, ils sont là et tu n'as pas ouvert la bouche encore et ils sont déjà en train de t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont? Et souvent, ça commence par « c'est pas moi ». Mais j'ai rien dit. Okay. C'est l'effet direct de la lumière. C'est l'effet direct de la lumière. Parce que lorsqu'on allume la lumière, qu'est-ce qui arrive? Ce qui était caché, on le voit maintenant. Il y a des choses qu'on voit qui sont bonnes, il y a des choses qu'on voit qui sont moins bonnes. Donc, si une fois que la lumière s'allume, et tu veux rester dans ces choses-là qui sont moins bonnes, tu t'éloignes de la lumière. Tu viens moins à l'église. Hein? Parce que juste de rentrer à l'église, juste de dire je viens dans la présence de Dieu, c'est le simple fait de chanter des louanges. Si tu n'es pas prêt à venir exposer devant Dieu ce qui est ténèbres dans ta vie, c'est-à-dire à l'encontre de la volonté de Dieu, tu te condamnes toi-même. Tu comprends? Même pas besoin d'avoir mis les pieds dans l'église. Déjà condamné le fait de rester à la maison. Hein? Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons aller à la lumière. Non seulement nous voulons aller à la lumière, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? C'est quoi? C'est qu'on vient à la lumière, pourquoi? Afin que nos œuvres soient manifestées. Parce que comme on va le voir ensemble plus loin, c'est ce qu'on désire que nos œuvres soient manifestées. Parce que les œuvres de Dieu à travers nous, c'est ce qui va manifester la lumière qui est à l'intérieur de nous. Amen. Et tout le monde, okay? Même s'il ne le réalise pas, même s'il ne l'accepte pas, a besoin de lumière. Okay? Donc, cette lumière-là met en lumière, justement, révèle les œuvres cachées de chacun. Deuxièmement, c'est quoi que ça fait, la lumière? Ça éclaire le chemin à ceux qui sont perdus. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Nous dit, Jésus leur parla de nouveau. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Okay? » Donc ici, c'est quoi? C'est de suivre Christ. Non seulement tu ne marches pas dans les ténèbres, mais tu marches dans la vie. Tu marches vers la vie. Et combien de gens aujourd'hui sont vivants sans l'être en réalité? Okay? Combien de gens aujourd'hui sont plus en mode survie qu'en mode vie? Sont plus en mode de dire, mais quelle est la prochaine action que je dois poser pour me sortir de telle chose? Et leur vie devient finalement quoi? Une succession d'actions qui n'ont plus ou moins de lien entre elles, mais qui sont seulement des actions de me sortir d'une solution, d'une position à l'autre. Ah, je me suis sorti de cette position-là pour me mettre dans une autre. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de cette position-là? Ah, après, j'ai une autre situation fâcheuse. Comment je vais sortir de là? Et il y a des gens avec qui vous parlez, il y a des gens que vous regardez, leur vie, c'est simplement ça. C'est une vie de se sortir de pétrin en pétrin en pétrin en pétrin sans jamais bâtir quelque chose de solide. Et mes amis, ce n'est pas la vie à laquelle nous avons été appelés. Amen. Parce que la vie à laquelle nous avons été appelés, non seulement c'est une vie à laquelle nous avons été appelés, comme Pasteur Ken a dit tout à l'heure, à nous unir ensemble comme un seul corps pour bâtir quelque chose, mais afin de bâtir quelque chose ensemble, il faut comprendre que Dieu lui-même désire bâtir nos vies individuelles également. Amen? On va prendre une petite gorgée d'eau. Il y a beaucoup plus pour nous que ce qu'on voit. Il y a beaucoup plus pour nous que les choses que la société nous dit qu'on doit courir après. Et dans cette vie dans laquelle Dieu nous appelle, se mélange à cette vie dans laquelle nous vivons ici sur terre. Et on tente d'être des enfants de Dieu qui marchent avec la vie divine en suivant un chemin que le monde nous montre. Donc, on suit des désirs, des projets, des volontés mondaines en essayant de mettre notre foi en action là-dedans. Ça fonctionne pas. Hein? La vie à laquelle nous sommes appelés est beaucoup plus grande que ça. La lumière est appelée à éclairer le chemin de ceux qui sont perdus. C'est exactement le principe du phare. Le phare qui se tient là, qui illumine et qui fait quoi? Qui empêche en fait que les bateaux, que les gens qui s'approchent du port, du quai, ne heurtent des choses, des pierres, des récifs ou peu importe. grâce aux phares, ça leur éclaire le chemin. Ils savent combien de temps, combien de distance, combien où naviguer ou quoi que ce soit. Mais si on éteint le phare, on peut pas dire j'ai eu un accident. Pourquoi? Parce qu'il faisait noir. Non. En fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'est différent. C'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et en condamnant d'une certaine façon les ténèbres, nous exposons nous-mêmes. Parce que si les ténèbres prennent autant de place aujourd'hui, c'est peut-être parce que la lumière en prend de moins en moins. OK? Parce que le mal n'a pas pris naissance en 2010, là, en 2015, en 2017. Moi, je lis ma Bible, et Sodome, Gomorrhe, ça avait l'air des endroits quand même assez intenses. Je lis ma Bible, et il y a des époques qui ne semblaient pas faciles non plus. Donc, le mal n'est pas né en 2017. Les ténèbres n'ont pas envahi la terre en 2017. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fil des ans, au fil du temps? Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la lumière est faite pour les ténèbres. OK? La lumière a été créée pour la noirceur, pour combattre la noirceur. Amen? S'il y a quelqu'un ici ce matin, en ce moment, vous sortez une lampe de poche pour lire votre Bible, on va se poser des questions. Okay? On va essayer de ne pas vous juger, mais ça va être bizarre. Pourquoi? Parce qu'il fait clair. Là où il fait clair, tu n'as pas besoin de lumière. Okay? Là où il fait clair, on n'a pas besoin de lumière. La lumière prend tout son sens dans la noirceur. Okay? La lumière a été créée pour les ténèbres. Dieu voit que des ténèbres sur la surface de l'abîme, que la lumière soit. Okay? La lumière est, pourquoi? Pour chasser les ténèbres. Donc, comment est-ce que les gens vont suivre la lumière si la lumière se cache? On veut tous suivre la lumière. On a besoin de suivre la lumière. Si la lumière se tient entre lumière, si la lumière n'est pas là, si la lumière n'est pas là où il fait noir, la lumière ne sert absolument à rien. Absolument à rien. C'est pour ça que Jésus est venu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a marché, est venu ici avec qui? Avec les gens de mauvaise vie. Il est allé voir, comme il a dit lui-même, ceux qui étaient malades et pas ceux qui étaient en bonne santé. Et les gens l'ont reproché d'aller marcher, d'aller manger, d'aller chez les gens de mauvaise vie, comme la Bible dit. Mais, si tu es médecin, pourquoi est-ce que tu as étudié des années en médecine et tout ça? Pourquoi? Pour t'ouvrir une clinique ou est-ce que tu acceptes juste les gens qui sont en bonne santé? Ah, oh, docteur, je suis malade. Ah, oh, moi, je ne traite pas les gens malades. Va de l'autre côté de la rue. Ça fait aucun sens. Et pareillement, si la lumière ne va pas dans les ténèbres, ça fait aucun sens. La lumière n'attend pas que les ténèbres viennent à la lumière. OK? Je m'explique. On a cette attitude des fois. On va prier pour telle personne et on va espérer que telle personne, par la grâce de Dieu, vienne à l'Église. Vienne au Seigneur. Mais les ténèbres ne sont pas directement attirées vers la lumière. Okay? Les ténèbres ne viennent pas à la lumière, c'est la lumière qui envahit les ténèbres. C'est la lumière qui envahit les ténèbres pour que ça soit clair. Lorsque tu entres dans une pièce et qu'il fait sombre, c'est pas les ténèbres qui ont dit « Allons-nous-en » pour qu'il fasse clair. C'est la lumière qui doit entrer pour qu'il fasse clair. Okay? Et quand la lumière arrive, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte la joie. Ça apporte la joie. OK? Crise de verglas. Quoi? 98? Oui? Crise de verglas ici au Québec, 1998. Je suis à Toronto. Oui. Je suis parti à Toronto. À ce moment-là, je suis allé avec des amis. On est allé voir un match de basketball à Toronto. Et pendant qu'on est là, dans la chambre d'hôtel, on regarde la télé, on voit le Québec sous la glace. Je dis, wow, OK. Et finalement, on est supposé de revenir, nos billets de train, on est allé en train, on a le billet de train pour rentrer, on arrive à la station finalement. Non, le verglas fait en sorte que tous les chemins de fer, la majorité, sont beaucoup trop glacés, les arbres, les débris, donc impossible de partir. Donc moi, ça se donne que j'ai un oncle qui habite à Toronto, donc j'appelle mon oncle, je dis, je reste chez lui. Je reste chez lui tout le long de la crise de verglas. OK? Ah ben oui, quoi? OK? Mais quand je suis revenu à Saint-Hyacinthe chez mes parents, l'électricité n'était pas revenue encore. Donc j'arrive à la maison, il fait noir, on n'entend rien, on dirait qu'il n'y a personne. Finalement, je m'en vais dans le sous-sol. Et tout le monde est là dans le sous-sol de la maison, autour du poêle à bois. Hein? Autour du poêle, ils sont là, et tu te dis, écoute, ça a duré combien de temps, je ne me rappelle plus, mais ça fait des jours et des jours et des jours. À un moment donné, tu t'habitues, tu trouves des moyens, ils sont là, tu vois il y a des chaudrons sur le poêle et tout ça, ils sont en train de manger, jouent aux cartes et tout, tu te dis, hey, quoi, là? Parce que dans les ténèbres, à un moment donné, tu t'habitues. C'est ça. Tu t'installes. Tu arrêtes de croire que la lumière peut revenir. Ça fait tellement longtemps que tu dis, mais écoute, je vais pas arrêter de vivre en attendant que la lumière revienne. Cet espoir-là, tu le perds, donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes dans les ténèbres. Mais j'arrive, j'enlève mon manteau, je dépose mon sac, je me dis, parce que là, en plus, de ce soir-là, je me rappelle, il y avait un match, je pense que c'était pas Super Bowl ou quelque chose comme ça, justement. En tout cas, il y avait un match et je me dis, j'aurais dû rester à Toronto. Pas de télévision, pas d'électricité, je peux pas regarder le match à la télé. Et là, je dépose mes choses pendant que je suis en train de me plaindre et tout. L'électricité revient. Mais vous auriez dû voir, à ce moment-là, toutes les petites bêtes là, qui étaient là autour du poêle. OK? Parce que ça avait l'air de ça. Quand tu descends dans le sous-sol, ils sont là autour. Ça a été l'hystérie totale. Moi, écoute, l'hystérie, mais c'était pas pour la même raison. Mais eux, ça faisait des jours et des jours qu'ils étaient dans la noirceur. L'électricité est revenue. Wouhou! Je pense qu'ils commençaient à danser et tout. Je me dis, aïe, aïe, aïe. C'est ce que ça fait, la lumière. Ça crée la joie. Même si tu t'habitues, même si tu manges, tu fais à manger sur le poêle, même si vous arrivez, tout le monde dort un peu dans le sous-sol autour du poêle à bois et tout, même si tu arrives à t'organiser, lorsque la lumière revient, tu réalises tout ce que tu as manqué. Et lorsqu'on amène la lumière dans la vie des gens autour de nous, c'est ce que ça crée. C'est ce que ça crée, ça crée la joie. Ça crée une joie même que les gens, souvent, n'avaient même pas réalisé que ça pouvait exister, une joie comme ça. Jamais j'aurais imaginé voir des gens aussi excités de revoir l'électricité. OK? Je dis, wow, ils sont vraiment contents. Mais ça a été quand même une période de... j'ai quasiment honte d'en parler parce que je n'étais pas là du tout. Mais il semble... Non, mais sérieusement, ça a été une période quand même difficile, là. OK? Blague à part, ça a été une période difficile. Il y a des gens qui l'ont eu beaucoup plus dur que d'autres. OK? Et malgré tout, chez moi, chez mes parents, ils étaient quand même bénis, là. Ils avaient de quoi s'organiser, s'installer. Amen? Donc, j'ose juste imaginer chez moi, chez mes parents, qu'ils avaient quand même des bonnes installations. Imagine les gens qui n'avaient pas de poêle à bois. Okay? Qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter, peu importe. Imagine la joie qui est entrée dans leur maison, dans leur foyer à ce moment-là. Et c'est exactement cette joie-là que nous sommes appelés à apporter. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais en Matthieu, au chapitre 13, il fait une autre déclaration. Okay? Verset 13. Matthieu 7, ouais. Non, c'est pas Matthieu 7. C'est pas Matthieu 13, non. Matthieu 13, non, c'est pas ça. Matthieu 5, hein? 5, 13. Il manquait une lettre, un chiffre, pardon. Matthieu 5, merci, verset 13. Qui nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Verset 14, « Vous êtes, quoi? La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et quoi? Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et là, il fait directement le lien avec la parabole qu'il vient d'amener. Jésus explique directement, ça signifie quoi? Il dit, de la même façon que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que vos bonnes œuvres, ou plutôt afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, comme on a lu en Jean 1, nous avons cette opportunité-là de devenir enfants de Dieu. Et parce que nous devenons enfants de Dieu, nous devenons enfants de lumière. Et nous portons cette lumière-là avec nous, en nous, continuellement, peu importe là où nous allons. Donc, le Seigneur Jésus dit oui, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je vous montre le chemin. Mais maintenant, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes maintenant ceux qui sont appelés à mettre au jour les œuvres cachées. Vous êtes ceux qui sont appelés à montrer le chemin aux autres. Vous êtes maintenant ceux qui sont appelés à amener la joie dans la vie des gens. OK? Nous avons une responsabilité. Acte 26. Ici, c'est l'apôtre Paul qui raconte là le témoignage de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Acte 26, verset 17. Et il nous dit que le Seigneur, voici ce que le Seigneur lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Afin que vous soyez, quoi? Des enfants de lumière. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Tous ceux d'entre nous ici qui sommes enfants de Dieu avons eu un moment où nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous avons eu un moment où le voile devant nos yeux a été enlevé, a été déchiré, a été vraiment tassé et nous avons eu l'opportunité de choisir d'accepter Jésus comme notre Sauveur Et à ce moment-là, lorsqu'on l'a fait, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est beau, c'est agréable, c'est bien, mais ça vient avec une responsabilité. Si on plonge cette salle-là dans la noirceur, amen, et que je donne une lampe de poche ici à une personne seulement, vous allez faire quoi avec? Vous allez dire merci, vous allez sortir, tout ça? Ça fait des semaines là, que vous êtes dans la noirceur, il n'y a personne qui ne voit rien, il y a des gens qui paniquent, vous essayez de vous organiser, et finalement, oh, il y a quelqu'un qui arrive, donne une lampe de poche à une personne. Vous la recevez, vous faites quoi? Vous dites, enfin, je peux sortir d'ici? Qu'est-ce qu'on fait avec le don de Dieu du salut, de la rédemption, du rachat de mes péchés? Merci Seigneur, je peux aller au ciel. Ou on en profite pour en amener quelques-uns avec nous. C'est la beauté de ce que nous avons reçu. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle. Je peux vous dire que dans le sous-sol de chez mes parents, à la fin de la crise de verglas, le retour de l'électricité, c'était une bonne nouvelle. Hein? Et Jésus, c'est une bonne nouvelle. Et comme on l'a vu, lorsque tu allumes la lumière, ça révèle les œuvres de chacun. Et il y a des personnes qui vont prendre la décision qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient révélées. Mais ça n'enlève pas le fait que la lumière doit être allumée. Amen. Ça n'enlève pas, le fait que nous avons cette responsabilité-là. Et non seulement une responsabilité, parce que des fois, on le prend et ça semble lourd, ça semble pesant, mais nous avons un privilège. Le privilège d'être co-ouvrier avec Dieu. Que le Seigneur ne nous envoie pas dans cette mission, dans cette moisson, dans cette tâche, dans ce mandat seul. Non seulement il vient avec nous, mais il nous équipe. Il y a des choses qu'on aime dire en tant qu'enfant de Dieu. On dit, c'est des choses qu'on aime dire, que tout le monde sait dire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Après, on veut faire un impact dans la ville de Drummondville, on veut faire un impact dans la province de Québec, dans la francophonie et au-delà. Comment est-ce que la lumière fait un impact? En allant là où il fait noir. En allant là où il fait noir. En allant là où les gens ont besoin de lumière, là où les gens ont besoin d'être éclairés, en recevant le don de la lumière que Dieu nous donne, comme, waouh, c'est une bénédiction là. Est-ce que je vais, mépriser le salut que j'ai en Jésus? Jamais, il n'y a rien de plus précieux que ça. Hein? Je vais le garder, je vais le conserver, je vais le chérir. Je ne le prendrai jamais pour acquis. Mais maintenant quoi? Maintenant, c'est pareil comme si, comme j'ai dit, si j'avais reçu une lumière dans un monde où personne d'autre n'en avait, si j'ai reçu une torche alors que ça fait des semaines qu'on est perdu. On a entendu il y a plusieurs mois, années, des histoires de personnes, des travailleurs, des mineurs qui sont là perdus dans les mines, dans la noirceur pendant des jours et des jours et des jours. Est-ce que vous pensez qu'il y a un de ces hommes-là, s'il y avait de la lumière, il serait sorti de là tout seul? Non, ramenez tout le monde avec lui. Donc ça signifie quoi pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Ça signifie que pour nous en tant qu'enfants de Dieu, tout d'abord nous avons besoin d'accepter, de saisir ce don gratuit de Jésus-Christ. Amen. La lumière qui est en nous. La lumière qui est en nous qui, oui, en nous aussi, cette lumière-là éclaire les choses cachées. Cette lumière-là nous guide, nous dirige, et cette lumière-là nous donne la joie. Donc, premièrement, nous avons cette décision à prendre de dire les choses que le Seigneur, que le Saint-Esprit révèle en moi, qu'il manifeste en moi, je dois d'abord prendre la décision, est-ce que je veux que le Seigneur l'expose et que je gère ces choses-là ou je désire les garder cachées? Déjà dans notre vie personnelle, on a besoin de prendre cette décision-là. Jusqu'à quel point est-ce que je veux aller vers la lumière? Parce que Dieu est lumière. Il n'est pas partiellement lumière, il est lumière, il est lumière. Jésus-Christ est la lumière, donc tu vas vers la lumière ou tu n'y vas pas. Jusqu'à quel point est-ce qu'on veut aller vers la lumière? Amen? Parce que plus on s'approche de la lumière, plus la lumière va révéler des choses en nous. Bien? Mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous émonde pour que l'on porte davantage de fruits. Et qui ne veut pas porter de fruits? Amen? On veut tous porter du fruit. Et non seulement on veut, mais on devrait vouloir porter du fruit. Parce qu'ultimement, le fruit, c'est pour qui? C'est pour les autres. Donc, si je ne veux pas aller à la lumière, je pense à moi. Si je ne veux pas être émondé, je pense à moi. Parce que je limite le nombre, la quantité de fruits qui peut être partagée autour de moi. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est quoi? C'est que nous avons été appelés à l'œuvre la plus magnifique qui pourra jamais exister. Il y a des gens qui vivent, ou plutôt qui survivent, en cherchant constamment une cause dans leur vie, en cherchant constamment une raison de vivre, en cherchant constamment quelque chose pour lequel me battre, quelque chose qui va valoir la peine de mourir. Gloire à Dieu, on n'est pas exposé aux mêmes choses que certaines personnes dans d'autres pays sont exposées et qui ont décidé déjà que oui, ils sont prêts à mourir pour cet évangile-là. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'évangile auquel on croit? L'évangile auquel vous croyez, est-ce qu'il vaut la peine de mourir pour? Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça qu'on a été créé. Okay. C'est pour ça qu'on a été créé. La lampe, le lampadaire, la lampe de poche, la lumière a été créée pour la noirceur. Jésus est venu pour chasser les ténèbres, pour montrer la voie à ceux qui étaient dans les ténèbres, et il nous envoie maintenant pour éclairer le chemin aux autres. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour faire une différence. Christ est venu faire une différence dans nos vies, pour qu'à partir de la différence et de la victoire que Christ apporte dans nos vies, on est capable de faire la même pour les autres. Nous sommes appelés à faire une différence dans ce monde. Ah, changer le monde, c'est dur. Comment est-ce qu'on change le monde? Comment est-ce qu'on fait une différence? Et on a ce réflexe de dire, j'allume la télé, je vois tous les besoins, je vois toutes les nouvelles, et je me dis, c'est beaucoup trop, et je ferme la télé. Et des fois, on entend ce message de l'Évangile, on entend le message du fait qu'on est la lumière du monde, on entend le message qu'on est appelé à faire une différence, on entend le message qu'on est appelé à vivre pour plus qu'on vit là, et on pense à toutes les choses qu'on pense qu'on devrait être supposé de faire, ou on croit devoir faire en tant qu'enfant de Dieu, et finalement, on dit, wow, c'est beaucoup trop, comment est-ce que moi, je vais arriver à faire ça? Et on éteint. Mais c'est pas tant le « moi » que le nous. Et on n'est pas seul ici. Et j'ose croire que si 120 personnes dans une chambre haute ont été suffisantes pour débuter quelque chose qui, comme la Bible dit, a bouleversé le monde, à combien plus forte raison ici, on n'est pas capable de bouleverser notre ville. On n'est pas capable de faire une différence dans notre ville. C'est comme l'histoire que j'ai entendue, c'est pas une histoire ou quoi que ce soit, d'un homme qui se promène sur le bord de la mer après une grande tempête et tout ça. Et là, il y a plein de choses qui sont sur le bord de l'eau. Il y a des étoiles de mer qui sont là, des centaines et des centaines et des centaines qui sont en train de sécher, qui sont en train de mourir. Et l'homme passe sur le bord de la mer, ramasse une étoile, le lance dans l'eau, le relance dans l'eau. Ramasse une étoile, le relance dans l'eau. Et finalement, il y a quelqu'un qui passe à côté de lui et dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je prends les étoiles, je les remets dans l'eau pour pas qu'ils meurent. Il dit, écoute, ça n'arrivera jamais, il y en a des centaines. Quelle différence tu penses que ça va faire? Il ramasse une étoile et dit, ça fait une différence pour celle-là. Et il la relance à l'eau. Okay? On va faire une différence comment? Une personne à la fois. Un acte d'amour à la fois. Un acte de foi à la fois. Un geste de bonté à la fois. Une parole d'espoir à la fois. Amen. Parce qu'un jour, le Seigneur s'est arrêté pour vous. Une personne. Un jour, le Seigneur est arrêté dans votre vie et il a dit, là, maintenant, je prends soin de lui. Je prends soin de elle. Je me révèle à lui. Je me révèle à elle. Un jour, le Seigneur s'est arrêté pour vous. Il a pris le temps de s'arrêter pour vous. C'est à notre tour de prendre le temps de s'arrêter pour les autres. C'est à notre tour de prendre le temps de regarder le monde avec les yeux de Christ. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à venir sur scène. Et la semaine prochaine, je veux qu'on voit des façons concrètes de dire oui, mais OK, comment est-ce que je suis la lumière? Comment est-ce que j'éclaire là où ce que je suis? Comment est-ce que je peux concrètement le faire? Parce que des façons concrètes et des façons simples également. Amen? Nous sommes la lumière du monde. On peut le dire autrement, nous sommes l'espoir du monde. Vous vous sentez peut-être pas comme quelqu'un qui porte un espoir quelconque, mais Christ habite en vous. Christ habite en nous. Et c'est lui l'espoir du monde. Amen. C'est lui l'espoir de ce monde. Que là, maintenant, vous êtes probablement la majorité d'entre vous capable de penser à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui peut-être a de la difficulté à arriver dans sa vie, quelqu'un qui est en train de passer un moment difficile dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous êtes là. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là. Avec quoi? Avec la force que vous avez, avec l'amour que vous avez, avec le Seigneur que vous avez. Amen. Parce que mes amis, on peut facilement passer à côté. Hein, la parabole du le bon samaritain, c'est qui ton prochain? On peut facilement passer à côté de notre prochain. Facilement. Mais on peut facilement arrêter aussi pour notre prochain. Hein? Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué. Il y a combien de caissières dans une journée, vous pensez, qui se font dire des belles paroles? C'est pas si compliqué. J'ose croire qu'ils se font enguirlander bien plus que qu'ils se font remercier. Okay? C'est pas si compliqué de dire merci. C'est pas si compliqué de faire un sourire. Okay? On ne demande pas de sauver la mer au complet. Parce qu'il y a un sauveur, de toute façon. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui sauve. Notre rôle, notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'introduire le monde à Jésus-Christ. C'est de réconcilier le monde avec Dieu. Amen. De montrer un monde qui a encore de l'espoir. Que l'espoir n'est pas terminé, là. Qu'il y a encore de la lumière. Et de montrer aux gens qui sont perdus qu'il y a encore de la lumière, mais montrer aux gens qui sont en train d'être confortables dans la lumière qu'il y a beaucoup mieux, en fait. OK? Et c'est une tâche pour laquelle il n'y a personne d'entre nous qui est, entre guillemets, qualifié. C'est une tâche à laquelle il n'y a personne d'entre nous qui est, entre guillemets, assez bon, assez fort. Mais c'est une tâche, au contraire, que chacun d'entre nous, avec le Seigneur, sommes assez qualifiés, sommes assez forts, sommes assez capables. Et si encore plus, nous venons ensemble, quel plus grand impact qu'on va avoir. Amen. Moi, je vous dis, j'ai un homme dans mon quartier qui passe les publisacs. Et à chaque fois que je vois cet homme-là, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je me retienne pour ne pas pleurer. La dernière fois qu'on s'est dit, la prochaine fois qu'il vient, on lui donne un café, quelque chose. Je l'ai vu se promener dans le froid, dans la tempête, avec quelque chose qui va lui rapporter quoi? L'autre fois, je lui ai donné $2. Je le remercie, je le salue, mais à chaque fois, je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et ça, c'est notre prochain. $2, c'est quoi pour changer le monde? C'est pas ça qui va payer son loyer. C'est pas ça qui va lui acheter un nouveau manteau. C'est pas ça qui va lui payer une voiture. Non, c'est vrai. Je me dis qu'il ne l'avait pas avant, ce $2-là. Il y a combien de gens comme ça qu'on croise dans une journée? Et encore une fois, oui, ça peut venir comme, wow, il y a tellement d'étoiles de mer. Écoute, tu me dis ça, mais des étoiles de mer, il y en a partout. Qu'est-ce que je fais, là? Prends-en une à la fois. Prends-en une à la fois. Prends celle qui se présente à toi. Le Seigneur ne va pas nous demander des comptes par rapport au fait que, il y avait 100 étoiles sur la mer, tu n'as pas réussi à les enlever, les 100? Non. Il va nous demander des comptes sur l'étoile qu'il envoie sur notre chemin. Et encore une fois, un jour, vous êtes venu sur le chemin de quelqu'un. Un jour, quelqu'un a pris le temps de s'arrêter face à face à moi et à me présenter l'Évangile. Un jour, il y a quelqu'un qui a pris le temps de m'emmener à l'église. Une personne à la fois, un geste à la fois, une action à la fois. Parce que pendant qu'on se dit, il y en a beaucoup trop et on ne fait rien, le peu qu'on peut faire, c'est déjà mieux que de rien faire. Amen. Et je vous lisais ce témoignage justement de missionnaire en Inde et tout ça. Et un jour, ça l'a frappé, cette réalité-là. Il dit, on en fait tellement. Il aide les enfants dans les, euh, dans les, comment dire, dans les dépotoirs, les choses comme ça. Il dit, on en fait tellement, on voit tellement de gens guéris, on voit tellement de gens qui ont des vies restaurées, on voit tellement de gens, et en même temps, il en reste encore tellement à faire. Il dit, à ce moment-là où tu réalises ça, tu es comme face à face un espèce de sentiment d'impuissance, de sentiment de dire, je me décourage, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais? On est en train de faire ce qu'on fait parce que c'est à ça qu'on a été appelé. On est en train de faire ce qu'on fait parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. On est en train de faire ce qu'on fait parce qu'on est appelé à être des enfants de lumière. Des enfants de lumière qui prennent plaisir à briller là où il n'y a pas de lumière. C'est pas chercher seulement la lumière. La lumière, je l'ai. Donc la question c'est, où est-ce que je peux briller? Où est-ce que je peux briller? Où est-ce que je peux me rendre utile? C'est une opportunité de faire la différence. Et aujourd'hui, avant de se laisser aussi, je vous donne une opportunité de faire la différence dans votre vie. Pour ceux et celles ici peut-être ce matin qui n'ont pas accepté encore le Seigneur Jésus dans votre vie, qui n'ont pas confessé le Seigneur Jésus comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. C'est lui la vie. C'est lui la lumière. Vous êtes ici ce matin, peut-être que vous marchez justement dans les ténèbres, c'est-à-dire que vous marchez sans trop savoir où est-ce que vous marchez, sans trop savoir où est-ce que vous allez. La première étape ce matin, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus, d'accepter cette lumière, la lumière de vie qui est venue quoi? Pour chasser les ténèbres, mais également pour vous montrer la direction. Pour vous montrer le chemin, et ce chemin-là, c'est un chemin de vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la Bible nous dit, n'a pas la vie. Donc ce matin, l'opportunité que je vous donne, c'est simple, mais puissant, c'est quoi? C'est d'accepter la vie. D'accepter la vie. D'accepter la lumière. Alors je vais vous demander tous, s'il vous plaît, en ce moment, on va fermer les yeux. On va sonder notre cœur, que vous soyez déjà enfant de Dieu, enfant de lumière, de voir, mais Seigneur, où est-ce que je peux briller? Comment est-ce que tu veux que je brille? Et si vous êtes là ce matin, je viens de faire cet appel-là, de dire, pour la première fois, vous voulez accepter le Seigneur dans votre vie, dire oui, je veux la vie. Je vais compter jusqu'à trois et à trois, je vais simplement vous demander si c'est vous ce matin de lever la main. De lever la main en signe d'approbation, en signe de dire « Oui, je veux cette vie-là, je veux cette lumière-là, je veux être appelé à briller également. » Donc, un, deux, trois, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, pour la première fois, qui veut dire oui? Juste lever la main. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. 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 Ouvrez les yeux, on va se lever ensemble. On va terminer en prière. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et dans ce monde des ténèbres, non seulement c'est là que nous sommes le plus utiles, mais c'est là que nous sommes appelés à briller encore plus fort. Donc, Seigneur, on te remercie ce matin. On te remercie pour ce temps en ta présence, Seigneur. Déjà le privilège de pouvoir se réunir ici librement, Seigneur, en ta présence. Nous te remercions. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis, Seigneur. Nous te remercions qu'un jour également, tu t'es arrêté pour nous, Seigneur Dieu. Tu as pris le temps de t'arrêter pour chacun d'entre nous individuellement pour nous montrer ton amour, pour nous révéler ton amour, alléluia, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu et enfants de lumière. Et c'est ce que nous sommes. Et nous te remercions pour ce don gratuit, pour ce cadeau inestimable, Seigneur. Donc, merci que pendant que tu étais sur cette terre, tu as marché comme la lumière du monde. Tu as révélé les ténèbres. Tu as guidé les gens dans leur voie, Seigneur. Mais tu nous demandes maintenant d'être le sel de cette terre. Tu nous demandes maintenant d'être la lumière de ce monde. Tu ne nous envoies pas seul. Alléluia, tu as envoyé ton Saint-Esprit avec nous. Tu ne nous envoies pas sans âme. Tu nous donnes toutes ces âmes spirituelles. Donc, merci, Seigneur, qu'en tant qu'Église, tu nous aides et tu nous conduis aujourd'hui. Alléluia, afin qu'on puisse briller comme des flambeaux, Seigneur, dans cette génération. Qu'on puisse être comme des phares, Seigneur, qui guident non seulement cette ville, mais chaque personne que l'on croise, chacun des prochains Père éternel qui viennent à notre rencontre, on puisse être la lumière dans notre monde, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, amen. Donc, soyez